La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Après l'annulation hier de la présidentielle prévue en Algérie le 4 juillet, le pays se retrouve dans un vide juridique complet.
Oui, la décision semblait inéluctable depuis des semaines après le rejet des candidatures fantoches auxquelles semblait encore croire seulement le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Il ne restait plus rien hier de la date tant invoquée de ce 4 juillet. Cette élection présidentielle qui devait clore la séquence révolutionnaire de la chute d'Abdelaziz Bouteflika, actée d'un retour à la norme institutionnelle, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Résumé par le site d'info Tout sur l'Algérie, ça donne incontestablement, c'est un camouflet pour le pouvoir et c'est une autre grande victoire pour le peuple. Mais TSA tempère immédiatement. Cette victoire, elle est symbolique, sans plus. Sur l'essentiel, le vieux pouvoir algérien n'a rien cédé et rien n'indique qu'il soit prêt à faire des concessions. Le Conseil constitutionnel hier a donc donné mandat à l'actuel chef de l'État pour convoquer à nouveau le corps électoral. Mais quel chef de l'État? Le président par intérim Abdelkader Ben Salah, nous rappelle l'édition algérienne du Huffington Post, était censé quitter ses fonctions le 9 juillet prochain, une fois justement un président légitimement élu. L'annulation du scrutin du 4 juillet, en déduisent les journaux algériens, équivaut donc à prolonger, sans le dire, son mandat en dehors de tout cadre constitutionnel. Avec tout ça, le pouvoir prend de gros risques, écrit encore TSA. Le principal de ces risques étant de reconvoquer l'élection présidentielle à une nouvelle date en misant sur l'essoufflement du mouvement populaire sans vraiment écouter son exigence de changement. Si les visages dont le peuple ne veut plus sont maintenus, alors tout ce que pourra entreprendre le pouvoir actuel fera l'effet de coup d'épée dans l'eau. Il faudrait donc à nouveau que des têtes tombent, mais c'est très improbable selon toujours TSA. D'autant, constate El Watan, que ceux qui ont jusque-là parié sur l'essoufflement de la contestation et ont organisé sa répression croissante, ceux-là en sont pour leurs frais jusque-là. Il suffit de voir avec le quotidien Liberté comment la mort en détention ces derniers jours d'un militant, le docteur Kamaleddine Fekar, a remis le feu aux poudres en plein ramadan pour voir que le combat de la rue algérienne s'annonce décidément encore long.
Et l'Union européenne devra-t-elle un jour répondre de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale?
Et crimes contre l'humanité et responsabilité dans la mort de 14 000 migrants en 5 années. Voilà ce dont il est question dans cette enquête menée par plusieurs avocats internationaux spécialisés dans les droits de l'homme. Enquête déposée aujourd'hui à la Cour pénale internationale de La Haye et qui pourrait donc donner lieu à des poursuites contre des responsables actuels des institutions européennes. La démarche fait l'objet d'articles coordonnés ce matin aussi bien dans le Spiegel allemand, le Washington Post, El País en Espagne, The Guardian en Grande-Bretagne, Le Monde cet après-midi aussi en France, bref, ce qui se fait de plus retentissant dans la presse mondiale. Les auteurs de ce plaidoyer, parmi lesquels on retrouve le français Juan Branco ou l'israélien Omer Schatz, affirment que Bruxelles, Paris, Berlin et Rome ont pris des décisions qui ont mené directement et en connaissance de cause à la mort de milliers de personnes. En Méditerranée, bien sûr, mais aussi en Libye, où la politique migratoire concertée des 28 est accusé d'avoir cautionné l'existence de centres de détention, de lieux de torture et d'une politique de la terreur, du viol et de l'esclavagisme généralisé contre ceux qui traversaient la Libye pour tenter ensuite de rejoindre l'Europe. Aucun dirigeant européen n'est directement nommé par ce réquisitoire, mais le rapport des avocats cite des discours, entre autres d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel. Il évoque aussi, selon The Guardian, des alertes qui auraient été clairement formulées en interne sur le fait que le changement de politique européenne en 2014 en Méditerranée allait conduire à une augmentation des décès en mer. C'est ce qui s'est passé. 2014, c'était l'année bascule, celle où le plan Mare Nostrum, qui consistait à organiser au mieux les secours en mer autour de l'Italie, a été remplacé par ce partenariat entre l'Europe et la Libye, qui, selon les auteurs de l'enquête, a ouvert la voie aux exactions que l'on sait, exactions qui ont été documentées par Der Spiegel dans son reportage publié début mai sous ce titre « L'enfer libyen ». À présent, dit Juan Branco dans The Washington Post et dans ce style qui lui vaut tant d'ennemis en France, c'est aux procureurs de la CPI de dire s'ils oseront ou non remonter au sommet des responsabilités européennes. J'en terminerai tout de même sur les doutes de cet expert en droit européen cité par El País qui ne prédit pas un grand succès devant la Cour à cette action.
Et puis ce week-end, un navire des gardes-côtes italiens a secouru et débarqué sans naufragé dans le port de Gênes.
C'est le Sigala Fulgosi. Il a touché terre dans la nuit de samedi à dimanche à Gênes, donc après deux jours de navigation forcée vers ce port du nord de l'Italie, alors qu'il avait secouru les migrants entre Lampedusa et la Libye. Mais de toute façon, ce n'est déjà plus de ce bateau-là dont parle la presse italienne. Elle se passionne pour le MSC Opera, ce paquebot géant qui a raté son créneau hier matin dans le port de la Giudecca à Venise. La vidéo est impressionnante, il n'y a heureusement eu que 4 blessés et beaucoup de tôles froissées, mais l'affaire remet en première page la question de ce tourisme de masse, de ces géants des mers qui débarquent chaque jour dans la fragile cité lacustre. Il faut les interdire, cela fait 7 ans que 5 gouvernements successifs le disent et aucun n'a réellement agi contre ce fléau, s'emporte Sergio Rizzo dans les colonnes de la Repubblica. Mais cette fois la vidéo est virale, l'indignation aussi, et le gouvernement italien jure que c'est l'incident de trop, que dès ce mois de juin, les paquebots seront interdits de débarquer sur le quai de la Giudecca. Mais l'affaire, comme à peu près tout en ce moment en Italie, a très vite tourné à la guerre politique entre les deux partis qui se partagent le pouvoir, la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Enfin surtout, en l'occurrence, le mouvement de Danilo Toninelli, le ministre des Infrastructures. C'est lui, hier, qui a annoncé de manière fracassante l'interdiction des débarquements à Venise. Il a été immédiatement accusé par Matteo Salvini en personne d'avoir empêché depuis des mois que la question soit résolue par la mise en place d'une déviation pour les paquebots. Il Fatto Quotidiano tient donc depuis hier matin la chronique des invectives entre ces deux alliés de gouvernement que les élections européennes ont achevé de brouiller. Jusqu'à quand leur alliance tiendra-t-elle alors que les européennes justement ont démontré que le mouvement 5 étoiles n'avait rien à y gagner, qu'il était en train de se faire totalement phagocyter par la Ligue d'extrême droite.
Merci Camille Magnard.